Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Aujourd'hui, l'une des plus grandes affaires des années 60, l'affaire Jean-Marie Devaux, du nom d'un gamin de 19 ans un peu simplé, un commis de boucherie qui se retrouve accusé d'avoir égorgé la fille de ses patrons, Dominique, 7 ans. Dans cette affaire passionnante et passionnée, vous allez retrouver le chroniqueur d'Europe numéro 1 à l'époque, Frédéric Potcher, au sommet de son art, et la justice française au fond du trou. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1. Christophe Ondelat.
La scène se déroule le 7 juillet 1961 dans un HLM de Bron, près de Lyon, au 156 avenue Saint-Exupéry. Vous voyez la boucherie au rez-de-chaussée? C'est la boucherie de monsieur et madame Bessard. Et c'est commode, le boucher, la bouchère et leur fille habitent au dernier étage, quelques marches à monter, et ils sont chez eux. Le 7 juillet 1961, donc, en début d'après-midi, Madame Bessard annonce à son commis qu'elle s'absente pour une heure. « Je monte chez moi, Jeannot. Je te laisse, Dominique. Hein? T'es gentil, Dominique, avec Jeannot ?»«
Oui, maman. À tout de suite. »
Dominique, vous l'avez compris, c'est sa fille. Elle a 7 ans. Et donc Madame Bessard monte chez elle. Elle y reste à peu près une heure et quart. Et elle redescend. Et quand elle rentre dans la boucherie...
Jeannot ? Jeannot, elle est où, Dominique ?
Oh ben, je sais pas où qu'elle est, moi, madame.
Dominique ! Tu l'as vu sortir, Jeannot ?
Bah oui, oui. Elle vient de partir.
Je t'avais demandé de la surveiller. Où est-ce qu'elle est ?
Madame Bessard immédiatement mobilise les voisines. Et tout le monde se met à chercher la gamine. Et c'est une voisine, Madame Canard, qui la découvre au sous-sol, dans la cave, un petit corps dans une mare de sang.
Oh mon Dieu, mon Dieu! Elle a été écorchée!
Et elle a aussi une grosse blessure au ventre. Et maintenant, faut prévenir la mère. Les hurlements de la maman, terribles. Et bien sûr, elle ne veut pas la laisser là, sur le sol froid et sale de la cave. Alors elle la prend dans ses bras, et en larmes, elle va la déposer sur le palier entre le sous-sol et le rez-de-chaussée.
Jeannot, Jeannot, s'il te plaît, tu peux appeler la police ?
Les policiers arrivent, et ils procèdent aux premières constatations.
La mort est récente, hein ? La gamine est encore tiède. Elle a été égorgée, regarde. C'est tranché bien net, hein ? Et je pense que c'est des coups de couteau aussi qu'elle a reçus dans le ventre. Hein.
Assez logiquement, même si la mère a l'air de bien l'aimer, le premier suspect qui se présente, ben c'est le commis, Jeannot. Ah, vous aussi, vous avez pensé à lui tout de suite, n'est-ce pas? Il a 19 ans et il a l'air d'être un peu simplé. La mère dit que quand elle est redescendue au magasin, il travaillait.
Approchez-vous, jeune homme, approchez-vous. On peut voir vos vêtements ?
Nickel. Pas de traces de sang.
Où est-ce que vous rangez vos couteaux, jeune homme ?
Ben, là.
Les couteaux sont tous à leur place. Propres et secs.
On n'a pas l'impression qu'ils ont été nettoyés récemment. Hein.
À partir de là, les policiers tentent de reconstituer précisément, minute par minute, ce qui s'est passé entre 2 heures, le moment où la mère monte à son appartement, et 4 heures, l'heure où on retrouve le corps de Dominique. Qui était où? Qui a fait quoi? La dernière à avoir vu Dominique vivante, c'est une voisine, Madame Bourne.
Elle est venue frapper chez moi pour jouer avec ma fille. Il était quoi? 3h15, 3h20? Moi, je lui ai dit que c'était pas possible parce que je devais aller à la poste. Alors elle est partie.
Donc à 3h20, elle était vivante. Or, c'est à peu près à ce moment-là que la mère redescend au magasin. 3h, 3h15. Or, la mère dit que quand elle rentre dans la boucherie, Jeannot est là. Il travaille. Donc, si à 3h20 la gamine était vivante, ça ne peut pas être Jeannot. Mais alors qui ? En menant leur traditionnelle enquête de voisinage, les policiers recueillent 5 témoignages. 5 personnes qui disent avoir vu un homme rôder dans le quartier à l'heure du crime.
Pour moi, ce gars-là, il était d'origine maghrébine. Je me souviens, il avait un blouson noir, brillant. Ah, sur son blouson, il y avait une grosse tache, oui. Moi, je l'ai vu partir vers les cantonnements des ouvriers étrangers là, qui travaillent à l'usine de Berlier, là. Par là-bas, là.
Les policiers font venir un chien pisteur qui effectivement flaire une trace qui va droit vers le cantonnement des ouvriers de l'usine Berlier. Aujourd'hui, un cantonnement de chantier, ce sont des Algécoum, mais à l'époque, ce sont plutôt des cabanes en planches. On n'est pas loin du taudis. Les policiers vont fouiller là-bas. Ça ne donne rien. Le corps de la petite Dominique est bien sûr autopsié.
Selon mes conclusions, les coups ont été portés au moyen d'un couteau de grande taille. Ils ont d'abord été portés au niveau de la gorge, ce qui a entraîné la mort, et ensuite au ventre. Voilà ce que je peux dire.
Est-ce qu'elle a été violée, cette petite docteur ?
Non. Aucun signe d'agression sexuelle. Strictement aucun.
Et ensuite, ma foi, l'enquête patine pendant 2 mois. 2 mois plus tard, le 29 août, dans la matinée, Jeannot, le commis, disparaît d'un coup du magasin.
Jeannot ? Jeannot, il est où, notre Jeannot ?
Madame Bessard le retrouve à la cave, étendu sur le sol, une main sur la tête.
Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Jeannot ? Oh, je sais pas, Madame Bessard. On m'a donné un coup sur la tête. Bouge pas, mon Jeannot. Je m'en vais appeler la police.
Les policiers arrivent et ils emmènent immédiatement Jeannot chez un médecin.
J'ai beau regarder, messieurs, je vois pas de traces de coups. Il y a bien quelques griffures, là, mais c'est vraiment rien de grave. Il a très bien pu se faire ça tout seul. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jeannot ? Tu n'as pas été assommé. Tu n'as pas été assommé, tu t'es griffé toi-même. Pourquoi t'as inventé ce bobard ?
Et là, pchit, le gamin se déballonne d'un coup.
C'est vrai, monsieur. J'ai fait croire que j'avais été attaqué. C'est pour qu'on me croive. Pour qu'on me croive que c'est pas moi qui ai tué la petite. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est moi. Mais c'est pas moi, je vous le jure, monsieur.
On veut bien le croire. On veut bien le croire. Cela dit, il aurait voulu attirer l'attention sur lui, qu'il n'aurait pas mieux fait. 2 jours plus tard, Jeannot est convoqué au commissariat pour un interrogatoire un peu plus musclé.
Bien, mon Jeannot. Tu vas me faire gagner du temps, hein ? Je veux pas y aller par 4 chemins. C'est toi qui l'as tué, la petite, c'est ça ? Bah oui. C'est ça, c'est moi qui l'as tué.
Excellent. Voilà une affaire rondement menée. Sauf que le lendemain, il se rétracte.
Je vous ai dit que c'est moi que je l'avais tué. C'est pas vrai, j'ai dit n'importe quoi.
Allons bon. Voilà qu'il fait marche arrière. Reprise de l'interrogatoire et nouveaux aveux.
Quand la patronne, elle est montée, après j'ai fermé le magasin. Je suis allé à la cave avec la petite, c'était pour aiguiser un couteau. Et c'est elle qui m'a dit, je viens avec toi, Jeannot. C'est pas moi qui ai demandé. Et après qu'on est arrivé à la cave, je sais pas bien pourquoi, j'ai eu envie de la tuer. Alors je lui ai dit, j'avais perdu ma montre, et je l'ai amenée dans un coin qui était tout sombre. Et puis je lui ai donné un coup dans le ventre. Et là, elle a crié. Alors je lui ai mis la main sur la bouche et comme j'avais le couteau dans la main droite, je lui ai tranché la gorge. Comme ça, elle ne criait plus.
C'est ce qu'on appelle des aveux circonstanciés. Le jeune Jean-Marie Devaux, 19 ans, est immédiatement conduit devant un juge d'instruction de Lyon. il lui répète mot pour mot la même histoire. Et il le fera une troisième fois au moment de la reconstitution, avec quand même, note le juge, des hésitations. Mais bon, voilà, le dossier est bouclé, il est étayé par des aveux. Total succès. Mais en vérité, à ce moment-là, le juge d'instruction a des doutes, de sérieux doutes sur la culpabilité de ce garçon. Alors le 4 septembre, il le fait extraire de sa prison et il le fait revenir dans son bureau. Bonne âme, il lui a même choisi un avocat commis d'office, maître André Soulier, un petit jeune qui débute. Bien, Jean-Marie. Maintenant, il faut me dire la vérité. C'est grave. Est-ce que tu as tué l'enfant, oui ou non ? Ah ben non, monsieur le juge. Tu l'as pas tué. Ah ben non, monsieur le juge. Alors pourquoi avoir dit que c'était toi ? À cause des piqûres, monsieur le juge. Des piqûres ? Quelles piqûres ? Le commissaire, il m'a posé des questions. Il m'a dit qu'il allait me piquer du sérum de vérité pour voir si je mentais. Et moi, je veux pas de piqûres. J'en veux pas. Mais à moi aussi, tu as dit que c'était toi. Je vous l'ai dit, mais je le pensais pas. Je disais comme si je l'avais fait, mais c'est pas vrai. À partir de ce jour-là, le jeune Jean-Marie Devaux ne changera plus d'avis. Il n'a pas tué Dominique. Pourquoi le juge a-t-il des doutes, d'après vous ? Eh bien, je vais vous l'expliquer. La voisine dit que Dominique sonne chez elle à 3h15, 3h20. Or, Madame Bessard, la bouchère, revient au magasin à 3h15 et elle tombe sur son commis, Jeannot. Ben, c'est donc qu'il n'a pas pu commettre le crime. C'est impossible. À l'heure du crime, c'est-à-dire à 3h20, il était avec sa patronne. Il n'a pas pu tuer Dominique. Techniquement, il n'a pas pu. Sauf qu'entre-temps, voyez-vous, la voisine et la mère, qui ont bien compris que leur déclaration innocentait Jeannot, ce gogol de Jeannot, ce neuneu de Jeannot, comme on dit dans le quartier, alors, à bien y réfléchir, elles se sont peut-être trompées d'horaire. La voisine, d'abord. Je vous ai dit que la gamine avait sonné chez moi à 3h15, 3h20. Je me suis trompé. C'était ben avant, hein, oui. C'était ben avant. Et la mère, Madame Bessard, idem. Je vous ai dit que j'étais redescendu au magasin vers 3h, 3h15. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. C'était bien après. Et donc maintenant, Jeannot a parfaitement eu le temps de tuer la gamine et de remonter au magasin et de nettoyer les couteaux et de les sécher. Heureusement qu'elles ont retrouvé la mémoire, ces deux-là. Mais il y a encore un problème, une incohérence. Le légiste qui a réalisé l'autopsie dit qu'elle a d'abord été égorgée et ensuite poignardée au ventre, dans cet ordre. Et comment le sait-il ? S'il y avait du sang dans l'abdomen, j'en aurais conclu qu'elle avait d'abord été frappée au ventre. Mais il n'y en avait pas. C'est donc qu'elle a d'abord été égorgée. Or, dans ses aveux, même si depuis il s'est rétracté. Le jeune Jeannot dit qu'il a d'abord frappé le ventre et qu'ensuite il a tranché le cou. Dans ce cas-là, il aurait dû y avoir du sang dans l'abdomen et il n'y en avait pas. Il y a un truc qui ne colle pas. Mais le légiste ne peut pas changer son rapport d'autopsie comme les témoins ont changé leur témoignage. Qu'à cela ne tienne, le juge désigne deux nouveaux experts de Paris. Évidemment, il n'est pas question, deux mois après, de leur faire faire une deuxième autopsie. On leur envoie juste des photos prises au moment de la première autopsie. Et leur réponse n'est pas parisienne, elle est normande.
Il n'est pas impossible que le meurtrier ait frappé d'abord au ventre, et puis à la gorge. Mais disons qu'à notre sens, l'inverse est plus probable.
Peut-être bac oui, peut-être bac non.
Avec ça, on est bien avancé. Et c'est dans cet état brinque-ballant que le dossier part devant la cour d'assises de Lyon. Ou soyons clairs, hein, Jean-Marie Devaux risque la guillotine. Le procès du jeune Jean-Marie Devaux s'ouvre le 4 février 1963. Pour l'occasion, le président a exigé un micro pour que tout le monde l'entende haut et clair. À l'époque, c'est très novateur. Et fort de son micro, il donne le ton dès la première seconde.
Devaux, vous êtes accusé d'avoir le 7 juillet 1961 volontairement donné la mort à Dominique Bessard. C'est cela ?
Oui, monsieur le président.
Une enfant de 7 ans. Le directeur de l'école où vous étiez en primaire dit de vous, je lis, « élève médiocre mais doux et docile, vivant un peu en dehors de la réalité ». Et d'autres maîtres disent « il n'a pas le regard franc ». Un de vous, pas le regard franc. Un peu comme aujourd'hui. C'est pas votre père qui dit « c'est un garçon qui n'avoue jamais même s'il est coupable ». C'est décidément une habitude. Un de vous.
Le président s'accroche ensuite à une histoire de chat.
Votre patron de vous, vous avez donné un petit chat. Et je lis que vous lui avez cassé les reins.
C'est un accident, ça. J'ai voulu prendre un escabeau, je l'ai échappé, et le chat, il était dessous.
Mais comment avez-vous pu lui casser les reins? Enfin, c'est un acte barbare.
C'est pas moi, je vous l'ai dit. C'est un accident, je suis innocent.
C'était un petit chat innocent, il avait confiance en vous, et il est mort dans d'atroces souffrances. Alors, Devaux, on tue les petits chats, et puis on s'attaque aux petites filles.
Le jeune Jean-Marie est comme pétrifié. Et c'est pas fini. Le président lit maintenant le rapport de l'expert psychiatre.
Voici ce qu'il a écrit. On se trouve en présence d'un adolescent prolongé, profondément immature sur le plan affectif, profondément névrotique dans son comportement, sexuellement immature, pudique, refoulé et complexé. Et il ajoute, âge mental, 8 ans.
Et puis on en vient au fait. Et là, le jeune Jeannot répond à toutes les questions par
« C'est pas vrai !» Je suis innocent, j'ai inventé.
Le commissaire qui a mené l'enquête vient dire que, comme le juge d'instruction, il a des doutes sur la culpabilité de Jean-Marie Devaux. Mais ça n'a pas l'air d'intéresser le président.
Bien, merci, pas de questions.
Et il suspend l'audience. Le lendemain, vient à la barre le policier qui a terminé l'enquête et qui a recueilli les aveux.
Lorsque Devaux m'a été présenté, je lui ai dit « As-tu dit toute la vérité, Jeannot ?» Et là, il a baissé la tête. Et je lui ai dit « Est-ce que t'as entendu parler du sérum de vérité ?»« Non ? » ?»« Eh ben, on fait une piqûre à l'accusé, et s'il dit pas la vérité, ben, on le voit tout de suite, sur un appareil. » Il m'a dit « Je veux pas qu'on fasse le sérum de vérité. » Et là, il a répondu « J'ai peur que ça me fasse mal. » « Alors, on te le fera pas, » je lui ai dit. « Mais il faut me dire la vérité. » Et là, Devaux m'a avoué que, sans que je le questionne, hein, plus avant, que c'était lui qui avait tué Dominique.
Et maintenant, j'en viens directement au réquisitoire de l'avocat général. C'est la dernière ligne droite de ce procès. Et il ne vous a pas échappé que dans cette affaire, il manque un mobile. Pourquoi diable Jean-Marie aurait-il tué Dominique? Eh bien, l'avocat général va en imaginer un. On est très loin de la justice, hein. Place à la ligue d'improvisation.
C'est le geste criminel du voleur surpris. Il est seul dans la boutique. Et il est désireux d'exploiter le tiroir caisse. Et Dominique revient au moment où il dérobe quelque chose.
Et elle lui dit, c'est très vilain ce que tu as fait là, Jeannot, je vais le dire à maman. Et là, Deveau s'affole, et il décide de faire disparaître le témoin.
Grand seigneur, il lui accorde tout de même des circonstances atténuantes.
Il ne faut tout de même pas oublier que c'est un attardé.
Et il réclame 20 ans de réclusion criminelle. Il est bien jeune, Maître Soulier, l'avocat qui a la lourde charge de défendre Jean-Marie Deveau. Et il ressuscite les témoins oubliés.
6 témoins. Vous entendez? 6. Ont vu un homme de type nord-africain venant de l'immeuble où Dominique était morte et courant à toutes jambes en direction du cantonnement Berlier. Cet homme, plusieurs habitants du quartier l'ont vu rôder quelques jours avant le crime. Et ils ne l'ont pas revu depuis.
À la fin de sa plaidoirie, il s'approche de Deveau.
Regardez-le. Il a 8 ans d'âge mental. Et il ne peut rien dire. Il ne comprend rien. Ça n'est pas de sa faute s'il est bête.
À 17h, la cour et les jurés se retirent. Ils sont de retour 2h30 plus tard.
Accusé, levez-vous, je vous prie. À la question « Jean-Marie Deveau a-t-il volontairement donné la mort à Dominique Bessard ?» La réponse est oui. En conséquence, la Cour vous condamne à 20 années de réclusion criminelle.
20 ans ! Mais lui, il n'a pas compris. Il se tourne vers son avocat.
« C'est vrai, maître ? Je sors ce soir ?»
Mais l'histoire n'est pas finie. Car un nouveau personnage apparaît dans la vie du jeune Jean-Marie Deveau, un curé, l'abbé Robert Boyer, visiteur de prison, à qui on a dit un jour
« Vous devriez le voir, c'est un pauvre gosse. »
Alors il va le voir, et il l'écoute. Et en sortant, il monte un comité de soutien, comité auquel adhère un certain nombre de gens qui comptent beaucoup à l'époque. Jean Rostand, oui monsieur, de l'Académie française. Eugène Claudius Petit, vice-président de l'Assemblée nationale, et Frédéric Potcher, journaliste à Europe numéro 1. L'idée du père Boyer est de déposer une demande de grâce auprès du président de la République. Mais ça ne plaît pas du tout à Jean-Marie.
La grâce ? J'en veux pas. Ça serait avoué. Moi, je suis innocent. Mais Jean-Marie, si vous pouvez sortir plus tôt... Si vous faites ça, mon père, c'est plus la peine de venir me voir. Je serai plus votre ami.
Ah, il a pris de l'assurance, hein, le petit Jeannot. Mais il reste fragile. En 1967, à la prison de Melun, il fait une tentative de suicide. Et il enchaîne avec une grève de la faim de 40 jours. Mais il arrête quand le père Boyer vient lui dire
« Jeannot, ça y est. » Le ministre de la Justice va demander la cassation de ton jugement.
Car le père Boyer est allé voir le garde des Sceaux, René Capitan, en personne. Et il lui a révélé des informations qu'il tient de l'avocat de Jeannot, Maître Soulier. 2 jurés disent qu'ils ont été manipulés par le président de la cour d'assises. Les mêmes jurés racontent que les délibérations ne se sont pas tenus dans la salle des délibérés, comme c'est l'usage, mais dans le bureau personnel du président, ce qui change tout. Parce que dans la salle des délibérés, les jurés et les magistrats sont installés autour d'une table, à égalité. Alors que dans le bureau du président, le magistrat plastronne derrière son bureau. C'est lui qui a le pouvoir. Voilà en tout cas un joli motif de cassation. Mais ça n'est pas tout. Toujours d'après ces 2 jurés, le président leur a raconté que juste avant le procès, il est allé sur les lieux du crime à Bron, avec le commissaire et avec l'avocat général. Il a oublié les avocats, dites donc, et les jurés.
Le procès a en quelque sorte commencé sans eux. Et en plus, il y a une preuve de ça. Hein. Les trois zozos sont allés à Bron dans une voiture du commissariat. Et c'est écrit sur le registre des entrées et des sorties de l'hôtel de police. Ah bah dis donc, si avec ça le jugement n'est pas cassé... Il est cassé, je vous rassure. Le 4 mars 1969, le verdict qui condamnait Jean-Marie Devaux est annulé. Rendez-vous pour un nouveau procès, à Dijon.
Mesdames et messieurs, la cour !
Et d'entrée. Tout le débat porte sur les coups de couteau. Vous vous souvenez que le premier légiste dit « Dominique est morte égorgée et le coup à l'abdomen a été donné après ». Mais vous vous souvenez aussi que dans ses aveux, Jean-Marie a dit qu'il avait d'abord frappé l'abdomen et ensuite la gorge. Maître Soulier demande au légiste.
Professeur Roche, comment meurt-on d'un coup à l'abdomen? Je répète ce que je vous ai dit. L'enfant est mort en quelques secondes de l'égorgement. On ne meurt pas si vite de coups que l'on reçoit à l'abdomen.
Ce que confirme un deuxième expert.
Moi, personnellement, j'ai fait des expérimentations sur des chiens. Et je suis absolument certain que l'égorgement a précédé les coups portés à l'abdomen. Absolument certain.
Et comme Jean-Marie Devaux dit l'inverse, eh ben alors ça fait planer un doute sur la valeur de ses aveux. Et puis vient le moment où le fameux commissaire, celui qui a fait changer les témoins de position, est appelé à la barre. Au premier procès, il avait joué du billard. Si on en croit Frédéric Potcher d'Europe numéro 1, là c'est de la brasse coulée.
Le témoin transpire, va et vient, s'éponge, parle toujours, se reprend, et plusieurs fois, le président doit le remettre sur les rails. Et le président à la fin s'énerve. Les faits, monsieur le commissaire, voyons, les faits, sinon je vous retire la parole.
Le réquisitoire est terrible. Après quoi, Maître Soulier plaide pendant 3h30 dans un silence absolu, tendu.
Je dis qu'en 8 ans, messieurs, la partie civile et la police n'ont pas réussi à trouver une explication à ce crime. Ni un mobile. Enfin, rien. Rien.
Les jurés se retirent pour délibérer. Et chose incroyable, ils sont de retour au bout de 35 minutes seulement.
À la question, Jean-Marie Devaux a-t-il volontairement donné la mort à Dominique Bessard ? Les jurés ont répondu non. En conséquence de quoi, Jean-Marie Devaux est acquitté.
Vous voyez, je vous surprends en train de pleurer. Ça fait 8 ans. 8 ans.
Je suis quand même heureux d'avoir entendu tout à l'heure, monsieur le président, dire « Devaux n'est pas coupable ». Il y a 8 ans que nous l'attendions. Il faut maintenant aider Devaux à reconstruire sa vie, à marcher avec les hommes libres. Mais ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile. Il ne sait plus ce que c'est que la vie quotidienne avec ses multiples soucis. Et je lui ai dit un jour que je ne l'abandonnerai pas. Eh bien, aujourd'hui, je peux le répéter, je n'abandonnerai pas Devaux.
Et Jean-Marie Devaux est libéré le lendemain.
Il est 7h33 exactement à ma montre. La porte de la prison de Dijon s'ouvre. Ici, la foule est nombreuse pour accueillir Jean-Marie Devaux. Il sort en compagnie de son avocat, il porte sa valise. Jean-Marie Devaux, alors ?
Je suis très content.
Simplement, vous dites ça. Vous ne ressentez pas autre chose ?
Non, c'est tout.
Comment ?
C'est tout, pour l'instant.
Mais ces applaudissements, que signifient-ils ?
J'en suis très ému et très touché.
En 1972, son avocat lui obtient une indemnisation en réparation des 8 années passées en prison pour rien. 125 000 francs. Avec l'argent, il s'achète une maison de campagne à Port-Camargue. et il offre une voiture au père Boyer. Il n'a jamais plus fait parler de lui. Et le meurtre de la jeune Dominique est resté à jamais un mystère. J'ai écrit cette histoire, entre autres, en m'appuyant sur le livre d'André Soulier aux éditions du Cherche Midi, « Mes mille et une vies ».
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.